Pascal Kahn, Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mondial Sport, version longue durant la CAN, deuxième week-end où l'émission joue la prolongation pour mieux vous faire profiter de la grande fête du foot africain. Les dernières infos, les réactions et les à côté de la compétition avec tous nos envoyés spéciaux et les analyses du consultant que nos camarades de Radio Foot International nous ont gentiment prêté, Yoro Mangara. Bonsoir Yoro.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Avec vous, on décortiquera les temps forts de ces dernières 24 heures, à commencer par la qualification du Nigeria pour les huitièmes de finale. Le Soudan n'a pas pu faire grand-chose face aux Super Eagles, vainqueur 3-1. L'Égypte l'a emporté il y a quelques instants 1-0, mais ça a été particulièrement compliqué. Le point dans un instant avec Christophe Jousset. Autre qualifié, le Maroc, venu à bout des communs hier, laissé la cante encore un peu tendre, mais plus que jamais soutenu par leurs nombreux supporters en France et notamment à Marseille, où la communauté continue de suivre sa sélection avec passion et fierté, malgré les débuts difficiles. Pour le Sénégal et la Guinée, ce n'est pas encore fait. Les Lions de la Teranga, à la peine hier, lors de leur face-à-face avec un Sili national pourtant en reconstruction, aidé notamment par l'ex-international Pascal Feindouno. On s'intéressera aussi au programme de demain, le groupe F avec Tunisie, Mauritanie, deux adversaires revanchards après leur défaite inaugurale. Gros plan également sur la Gambie de Tom Saintfitz, le belge baroudeur autant que Tintin que Hugo Moissonnier est allé observer à l'entraînement. Également dans ce Mondial Sport, un reportage de Frédéric Suto sur les terres de Samuel Eto'o. Frédéric qui nous parlera évidemment aussi de la Côte d'Ivoire. Et puis on fera une petite infidélité quand même à la CAN pour la première ligue où Manchester City se rapproche de plus en plus du titre après sa victoire sur Chelsea 1-0. Allez, tous nos envoyés spéciaux au Cameroun sont prêts pour notre vaste tour d'horizon de cette CAN sur les terrains et en dehors. Les belles surprises, les déceptions, les polémiques, rien n'a manqué en presque une semaine de compétition. Deux matchs ont fait avancer le tournoi aujourd'hui, deux rencontres du groupe D. Et à l'arrivée, un troisième qualifié pour les huitièmes de finale après le pays hôte et le Maroc, c'est le Nigeria. Mais auparavant, on va en venir au match qui vient de se terminer à Garoua et qui a suivi pour nous Christophe Jousset. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Christophe, bonsoir Yoro et bonsoir à tous.
Ce match c'est Égypte-Guinée-Bissau, les pharaons qu'on savait forcément sous pression après s'être loupés en ouverture contre les Nigérians. Alors ils l'ont emporté 1-0, mais ils respirent, mais on peut dire qu'ils étaient un petit peu en apnée sur les dernières minutes.
Oui, ils l'ont échappé belle. Victoire 1-0 sur le but de Mohamed Salah, 69e minute. Mais ce qui reste, ce qui nous maintient sous tension encore quelques minutes après le coup de sifflet final, c'est ce fameux but refusé à la Guinée-Bissau, le but égalisateur à la 82e minute. Superbe but signé Mama Baldé, l'attaquant de Troyes, qui a réussi, après avoir été au duel avec le défenseur égyptien, à s'arracher à son marquage, à lui échapper, à effacer un deuxième défenseur égyptien et à délivrer une superbe frappe décroisée dans le petit filet opposé. L'un des plus beaux buts depuis le début du tournoi, sans doute. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'arbitre Pacifique Ndabiya Wenimana, l'arbitre burundais, a d'abord validé le but et puis, sans doute pressé par les Égyptiens qui se sont massés autour de lui, a finalement décidé d'aller voir la VAR, d'aller vérifier sur l'écran. Et là, eh bien, il a annulé ce but. Et ça va faire parler parce que le duel paraissait tout à fait régulier entre Mama Baldé et le défenseur. A priori, la majorité pense qu'il n'y avait pas de raison de l'invalider, ce but.
Yoro, c'était votre avis, pareil, pas de faute sur cette action ?
Il n'y a pas faute, il y a mille fois but parce qu'ils se sont tous les deux accrochés et puis l'autre a été plus puissant. Mama Baldé a montré de la puissance. Après, il a enchaîné avec des gestes techniques parfaits, enveloppés. Il y avait but. Pour moi, il n'y avait pas faute.
Et donc, forcément, ça aurait pu tout remettre en cause dans ce match parce qu'un partout, la situation n'était forcément pas la même. Les Égyptiens auraient encore un petit peu. Il serait resté crispé.
Moi, je pense que les Égyptiens ont joué 25 minutes dans ce match entre la 25e et la fin de la première période. Ils ont poussé et je pense que physiquement, après, ils ont pêché. Après, j'ai vu que ces Bissau-Guinéens étaient là en seconde partie. Ils ont essayé de jouer et bon, ils ont pêché de naïveté parce que souvent, quand on essaie de jouer, on se fait endormir par l'adversaire qui a beaucoup plus d'expérience. Et le but de Salah a un petit peu sonné cette équipe bissau-guinéenne. J'ai entendu dire que c'était leur premier but dans cette compétition. Non, en 2017, ils avaient déjà marqué un but. C'est Paqueti, je ne sais pas, quelque chose comme ça, qui avait égalisé face à la Gambie. Donc, c'est une équipe qui a essayé de jouer. Malheureusement, ça n'a pas payé.
Mohamed Salah qui marque enfin. On sait qu'il a énormément de pression hein, depuis de longues années avec les Pharaons, parce qu'il est très attendu. Il n'a pas toujours été toujours performant en sélection. Là, ça y est, ça peut lancer sa compétition.
De toute façon, il répond toujours présent avec la sélection. Sauf que Mohamed Salah n'est pas venu dans cette bonne période de l'Égypte. Il est seul. Déjà, il manque déjà de centimètres. Je crois que si on avait l'équipe de 2008, 2009, 2010, ils auraient dû déjà marquer deux buts, parce qu'avec Amr Zaki et un joueur comme Mido, ils ont beaucoup plus de centimètres. Et Omar, sur le côté droit, qui n'arrêtait pas de faire des centres durant 90 minutes, malheureusement, ils avaient moins de centimètres qu'il y a 10-15 ans, moins d'avant-centres. Il y a comme Moussala dans cette équipe. Le reste, c'est de bons joueurs, mais ce n'est pas de top players comme lui.
Alors, en tout cas,
Christophe, ajouter quand même la déclaration. Il y a quelques instants de Mohamed Salah chez nos confrères de Canal+. Nous avons eu un peu de chance sur le but refusé. Ça veut dire qu'il pense comme tout le monde que le but n'aurait pas dû être refusé par la VAR. Il y a du mieux quand même par rapport à la première sortie de l'Égypte contre le Nigeria. Ils sont en progrès, y compris Mohamed Salah, parce que d'abord il a marqué et puis il était bien mieux sur le côté que dans l'axe. Et il faut aussi rappeler quand même que l'Égypte était au-dessus sur l'ensemble de la rencontre et que les Pharaons ont manqué de réussite. Ils ont touché trois fois le poteau. Dès la deuxième minute, Mossala a frappé sur le poteau. Il y en a une autre un peu plus tard à la 18e et encore une de Zizou à la 75e. Donc vous voyez, ça aurait pu être plié un peu plus, avec un peu plus de chance en faveur des Pharaons qui ont quand même conclu sur une victoire assez laborieuse.
Oui, victoire tout de même finalement logique, compte tenu de la physionomie en tout cas de cette rencontre. Christophe, on revient donc maintenant sur le qualifié, lui, le réel qualifié de cette journée, le Nigeria, les Super Eagles, qui n'ont pas eu beaucoup de mal finalement à s'imposer sur le Soudan. 3-1.
Oui, extrêmement appliqué les Super Eagles. Ils ont fait les choses rapidement. Ils ont mis les choses au point rapidement face au Soudan, toujours à Garoua. 3e minute, c'est le but le plus rapide depuis le début du tournoi. C'est Chukwueze, l'attaquant de Villarreal, qui a ouvert la marque. Il y a eu aussi Awoni d'une tête. Alors là, pour le coup, vraiment très chanceuse, hein, presque involontaire la tête. Il a marqué son premier but en sélection. Tant mieux pour lui. C'était 2-0 à la mi-temps. Et puis, à la reprise, les Super Eagles d'Eguavoen ont démontré qu'il restait bien concentré sur l'objectif, puisqu'il ne leur a fallu que 35 secondes pour marquer le troisième but, le but du 3-0 signé Moses Simon, le Nantais. Il y aura un pénalty pour les Soudanais à la 70e minute de jeu qui leur a permis, suite à une grosse faute de la Haina dans la défense, dans sa surface de réparation, qui a permis aux Soudanais de réduire l'écart. Pénalty de Walieldin Kidir, le joueur d'Al Hilal.
Et je vous propose d'entendre une réaction du Nigeria recueilli par notre confrère Marco Martins de la rédaction Lusophone. William Trostekong, le défenseur nigérian de Watford, était il y a quelques minutes.
Aujourd'hui, c'était un challenge différent du premier match où nous avions été très bons d'un bout à l'autre. Là, nous étions lents en première période, mais bien meilleurs en seconde. Mais bon, c'est toujours un bon signal envoyé, même si nous avons été moins performants. Nous avons quand même inscrit 3 buts et nous méritons donc de gagner ce match. 6 points, nous sommes heureux et qualifiés pour le tour suivant, même si nous voulons gagner le dernier match.
Yoro, le Nigeria, belle démonstration pour l'instant, 2 matchs de victoire.
Ils ont déjà bien commencé en battant l'Égypte. Aujourd'hui, ils ont eu la mainmise durant 90 minutes sur ces rencontres. Ils jouaient à leur rythme, ils accéléraient quand ils veulent, ils cassaient le rythme quand ils veulent. 3-0, c'est la seule équipe avec le Cameroun et qui, pour l'instant, domine ses adversaires et gagne, pas facilement, mais gagne avec la manière. C'est très bien. Ils ont déjà plus qu'un pied, ils sont déjà en 8e de finale dans cette compétition.
Merci Christophe, on vous retrouvera très prochainement pour parler sans doute du 3e match du Cameroun. On verra ça demain à Yaoundé, ce sera contre le Cap-Vert dans le but de sécuriser la première place de leur groupe après leur qualification, mais on aura largement le temps d'en reparler. Autre nation qui n'aura donc pas besoin d'attendre son 3e duel pour être sûr de poursuivre cette aventure, c'est le Maroc qui a dominé hier les Comores 2-0 dans le groupe C, dans l'autre stade de Yaoundé, le stade Amadou Ahidjo, sous les yeux notamment d'Antoine Grenier. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Christophe, bonsoir Yoro, bonsoir à tous.
2e victoire en 2 matchs pour les joueurs de Vahid Dalilodzic. Des Lions de l'Atlas, jamais vraiment inquiétés par les Sélacantes.
Non, tout en maîtrise, les Marocains qui se sont appuyés sur leur point fort habituel, la défense, une défense solide. Romain Saïs et ses camarades n'ont concédé aucun tir cadré au Sélacanthe. Déjà face au Ghana, les Lions de l'Atlas avaient contrôlé la rencontre. Là, face aux Comoriens, ils ont été un peu aidés par le retour de Sofiane Amrabat, le milieu de terrain de la Fiorentina. Un patron, il a fait office de tour de contrôle, il a offert au passage des tacles défensifs qui ont montré sa détermination et celle des Marocains. Offensivement, c'est un petit peu plus paradoxal parce que s'ils n'ont marqué que deux fois les joueurs de Vahid Halilhodžić, ils auraient pu s'imposer bien plus largement grâce aux performances de Tariq Tissoudali et Salem Amala, les deux ailiers sortis des brasseries de la Jupiler League en Belgique. C'est eux, hein, même plus que Sofiane Boufal ou Youssef En-Nesyri, qui ont fait des différences. Salem Amala surtout, qui s'est offert un but et une passe décisive dans un match où, il faut le reconnaître, les Marocains sont aussi tombés sur un Ben Bouana qui a sorti le match de sa vie. Et comme beaucoup, Naïef Aguerd lui-même a buté sur le gardien comorien, mais la mission était accomplie, estimait le défenseur du Stade Rennais au micro de Nicolas Bamba.
Depuis qu'on est arrivé là, notre objectif c'était de gagner les matchs et rester premier. Aujourd'hui on verra, il y a encore un match contre le Gabon et on verra à la fin. Mais nous on a joué ce match, on a essayé de respecter ce que le coach nous a demandé. Et voilà, je suis très content, très fier de l'équipe. C'était pas facile, sans chercher les excuses, mais voilà, les conditions n'étaient pas faciles. Il y a un peu d'humidité, il y avait un peu de chaleur, mais bon, le plus important, c'est les trois points. Il faut continuer à travailler.
Un Maroc solide, qualifié, et des joueurs des Comores, Antoine, encore une fois, impuissants.
On l'a dit, hein, Christophe, aucun tir cadré pour les joueurs d'Amir Abdou. Les retours de Fouad Bachiro et Faïs Selemani en titulaire n'auront pas apporté au Sélacanthe les solutions offensives qui avaient déjà manqué contre le Gabon. Toujours pas de but marqué pour les Comoriens qui, s'ils ne sont pas encore éliminés à 100%, vont devoir réaliser un exploit majeur à Garoua face à un Ghana lui-même en danger, hein, dans ce groupe. La seule satisfaction finalement, c'est le titre d'homme du match reçu par le gardien Salim Ben Bouana. Il a cédé par deux fois le joueur d'Andoum en 5e division française. Mais sans lui, le score aurait pu être plus lourd. Ben Bouana qui a même arrêté un pénalty dans cette rencontre à la 83e minute. Et à l'issue du match, il était à la fois le plus déçu et le plus heureux des Comoriens. Déçu par cette nouvelle défaite, mais satisfait de recevoir le trophée d'homme du match. On va l'écouter, Ben Bouana.
C'est une première pour moi de sortir sous les ovations, surtout à l'extérieur. On kiffe ces moments, ça sera des moments inoubliables auxquels je pourrai raconter à ma famille et à mes enfants. Donc on m'a dit avant ce match, c'est de prendre du plaisir et de se régaler. Car c'est pas tout le temps qu'on joue une canne et j'espère que j'ai pu le faire comme il faut. Et voilà, tout simplement.
Ben Bouana et les Comoriens qui s'envoleront demain pour Garoua pour aller affronter le Ghana. Match de la dernière chance pour les deux équipes, Christophe.
Maroc séduisant, Euro, pour l'instant, sur ce début de Cannes.
Pas séduisant, mais très sérieux. Quand même, ils sont là, ils jouent les matchs l'un après l'autre. Ils n'essaient pas d'en faire trop parce qu'ils savent qu'ils sont venus avec quelques atouts offensifs de moins. Mais quand même, c'est une équipe sérieuse. Hier, ils auraient pu gagner beaucoup plus largement si En-Nesyri avait transformé son penalty, qui même dans la foulée a raté en face-à-face face à Bouana. C'est une équipe sérieuse, solide, comme son entraîneur Vahid Halilhodžić. Il n'y aura pas beaucoup de superflu, mais ce sera très costaud jusqu'à la fin.
Alors du côté des Comores, bon, on imagine la situation est déjà très très compliquée. Mais on le rappelle, les Comores, ce sont les petits nouveaux de cette CAN, très suivis au pays, on l'imagine, mais aussi à Marseille, considérée comme la cinquième île de l'archipel avec ses 80 000 Comoriens. On a déjà eu l'occasion de vous parler de cette communauté férue de foot. Je vous rappelle d'ailleurs le grand reportage de Martin Guez à écouter ou réécouter en podcast sur RFI.fr. Alors il n'allait évidemment pas louper le match d'hier, hein, ses supporters contre les Comores plutôt. Dans le 3e arrondissement de la ville, une fan zone a été improvisée en bas des bâtiments de la cité Félix Pia. Notre reporter Laure Lemay à Marseille est allé suivre la rencontre avec les habitants du quartier.
Allez les verts!
Allez les
verts!
Allez les verts! Allez les verts!
Un drap blanc tendu à 2 mètres du sol sur le mur du bâtiment C14, un rétroprojecteur, une enceinte, le drapeau national sur le côté. Habitants de 7 à 77 ans se sont retrouvés au coup d'envoi.
Moi j'aurais pu le regarder chez moi, mais c'est bien d'être là avec tout le monde. Ça donne des frissons, ça réunit beaucoup de Comoriens. C'est nous ici, c'est nous les Comoriens.
On voulait installer ça pour nos familles, nos darons, et pour que tous les Comoriens voient le match. On n'a jamais été connus nulle part. C'est la première fois qu'on passe sur des chaînes comme ça. C'est la première fois qu'on joue une coupe comme ça. Lucien Pépin, c'est lui le fondateur de tout ça.
Moi, Mounir, c'est avec le connaître l'idée de vouloir diffuser le match à tout le quartier, pour montrer notre bonheur aussi. Il était à Yaoundé le premier jour, c'était le feu.
Il y avait tout le monde, on achetait à boire, à manger pour tout le monde. C'était tout gratuit. Ah, il y avait de la vraie ambiance, franchement.
Plus ici, complète.
Il y avait tout le peuple comorien de tous les quartiers de Marseille. Et on a fait la première canne de notre pays ensemble.
L'initiative des jeunes du quartier a fait le tour des réseaux. Assad est venu exprès de Chambéry.
Je suis descendu simplement pour vivre la canne à Marseille. J'ai pris une semaine de vacances, au moins pour voir... Voilà les matchs ici à Marseille. Quand on n'a pas pu aller au Cameroun, voilà, mais à Marseille, tu te sens un peu à la maison. Ici, à la famille, à les amis, ben, on se sent un peu au Comore. J'espère qu'ils vont gagner. Et ouais, qu'ils vont se qualifier encore, Inch'Allah. Aïe, 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 aïe.
Ouais. Malgré une défense solide de l'équipe comorienne, leur premier match de poule s'est soldé par une défaite. 1-0 pour les Panthères du Gabon. Et pour Nakib, il faut rester lucide. Et ce n'est pas une raison pour ne pas être fier.
On était déçus, c'est normal. C'était moyen, mais on voit que les joueurs ils mouillent le maillot. On voit qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Même si après c'est difficile. Mais ça va. Après, on n'est pas l'équipe de France, on n'est pas le Brésil, on n'est pas l'Algérie. On est l'une des plus petites nations de cette compétition. Et c'est un grand honneur hein, pour nous. Déjà de voir ce match contre le Maroc, que c'est pas un match amical, que c'est la CAN. Avec le temps, on va s'améliorer. Il y a de plus en plus de Comoriens qui jouent dans des centres de formation, qui jouent dans des bons clubs. L'évolution, ça sera avec l'implication de tous les Comoriens qui jouent au foot actuellement. En Ligue 1, à l'étranger, en Ligue 2. Parce que là, la vérité, on fait avec les moyens du bord. Hein. C'est vrai que c'est compliqué, mais il faut quand même remercier, il faut quand même être fier de ceux qui sont là aujourd'hui. Ceux qui nous ont ramenés déjà là aujourd'hui. On est fiers, très fiers.
Voilà, je t'aime ! C'est bon ! Belle bonne note, c'est
bon ! À l'unanimité, les supporters marseillais comoriens reconnaissent les exploits du gardien de but Salim Ben Bouana. 7 arrêts au total, dont le pénalty de Youssef Nnesri à la 83e minute.
La Busserine, exactement.
C'est pareil qu'ici, c'est les quartiers nord.
Il est formidable. Il est magnifique.
Il sort de la rue. Il a grandi avec rien du tout. Et là, il nous montre que même quand on n'a rien, on peut faire quelque chose.
Le match touche à sa fin. Plus vraiment d'espoir de voir s'envoler le ballon dans les cages marocaines.
Allez, le coup de sifflet final. Le Maroc a fait le travail. Succès 2-0. Face à la sélection des Comores, malgré un excellent Salim Ben Bouana dans le but qui a mis le temps.
On a eu la chance aujourd'hui du Maroc à le Maroc. Ils nous ont mangé. Mais bon. Ça se voit que voilà, par rapport au premier match, là, on a bien joué. C'est la dernière chance. Il y a un match qui reste. C'est pas fini. On a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Comoriano jusqu'à la mort, hein, on sera là.
C'est donc dans 3 jours que le Comore jouera contre le dernier adversaire de son groupe, le Ghana. Pour la cité Félix Piard, rendez-vous au même endroit pour la fan zone. Laure Lemay, Marseille, RFI.
Alors, avant d'arriver à ce match, on va continuer avec le groupe C de ce week-end, avec notamment le Gabon. Pas encore qualifié non plus, mais les Panthères ont fait un grand pas hier vers les 8e de finale. On va en parler avec Thomas Saint-Léger. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Christophe, bonsoir Yoro et bonsoir tout le monde.
Sous vos yeux à Yaoundé, les hommes de Patrice Neveu ont réalisé une excellente opération.
Un match nul un partout face au Ghana, un point plus les 3 de la victoire face aux Comores qui font 4. C'est très bien parti, oui, et c'est un peu miraculeux ce scénario. André Ayou avait ouvert le score sur un bijou d'enchaînement, contrôle orienté, frappe lointaine. Et c'est Di Malevina, rentré en cours de match, qui lui a répondu dans une certaine confusion. Juste avant, le ballon avait été sorti par les Ghanéens pour permettre de soigner un joueur à terre. Et ces filous de Gabonais, au lieu de rendre l'appareil, comme ça se fait en général, ont joué rapidement alors que leurs adversaires étaient à 10.
Et du coup, grosse colère des Ghanéens, on l'imagine.
Furax, ils se sont rués, André Ayou en tête vers le banc adverse, tension maximale et pugilat au coup de sifflet final. Une générale, comme on dit en rugby, Benjamin Tété, le Ghanéen, écopera d'ailleurs, la sanction est tombée aujourd'hui, de 3 matchs de suspension. André Ayou, lui, s'est présenté en conférence de presse le regard noir. Je vous propose d'écouter ou de réécouter sa réaction à chaud.
Le fair play du football, c'est que quand tu reviens, tu nous redonnes le ballon, tout simplement. C'est pour ça qu'ils marquent. Sinon, tout le match, ils n'ont pas d'occasion. Tout le monde est debout, on les regarde, on attend, on se dit, ils vont rendre le ballon, ils ne le rendent pas, et but. Mais c'est très petit de leur part. Bon, voilà, c'est comme ça avec les petites équipes.
Alors, évidemment, les Gabonais ont réagi aux déclarations d'André Ayou.
En disant, évidemment, que pour une petite équipe, ils ne s'en sortaient pas si mal, et en rappelant qu'ils étaient en bien meilleure posture que les Ghanéens, qui ne sont que 3.